Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Mesdames et messieurs, à partir du tournant politique de 307 avant Jésus-Christ, qui a marqué pour Athènes le retour au régime démocratique, Stratoclès de Diomeia fut visiblement l'orateur le plus actif et le plus écouté à la tribune de l'Assemblée athénienne. Si malheureusement on ne peut plus aujourd'hui juger de son talent oratoire, puisque aucun de ses discours n'est parvenu jusqu'à nous, comme dans le cas de Démade, et sans doute pour les mêmes raisons en partie, on possède encore une vingtaine de décrets gravés sur la pierre, où son nom, plus ou moins bien conservé en l'occurrence, figure en bonne place en tant qu'auteur de la proposition Stratoclès, Euthydemou, Diomeios, Eipen. Comme leur nombre devait être en réalité bien plus considérable, il est permis de lui attribuer, par conjecture, tel document mutilé où l'on retrouve, sinon son style, ce serait trop dire, du moins son idéologie politique et son inventivité en matière de célébration des souverains. Encore que, même en ce domaine, il n'eut pas le monopole absolu. Chez lui, toutefois, et on l'a pensé dès l'Antiquité, le penchant à l'adulation, à la kolakeia, aurait passé toute mesure, rompant avec la traditionnelle fierté du peuple athénien vis-à-vis des monarques étrangers. Tel était, on l'a vu, le jugement d'un homme aussi rigoureux, honnête, intelligent que Plutarque, dans sa vie de Démétrios. Mais ce grand moraliste n'a peut-être pas tenu assez compte de ce qu'était le sentiment de la très grande majorité des Athéniens en cette fin du IVe siècle, au sortir de 15 années d'éclipse presque totale de la démocratie et face à la volonté affichée par Cassandre de reprendre coûte que coûte la cité libérée. Or, pour parer à cette menace extrêmement sérieuse, quel autre recours que l'appel et donc l'adhésion inconditionnelle aux souverains antigonides? De fait, en 304, ceux-ci furent une fois encore en mesure de sauver la cité d'une nouvelle mainmise du roi de Macédoine. Et cela grâce à l'intervention décisive de Démétrios Poliorcète en Grèce centrale. En Grèce centrale et pas seulement à Athènes. Il ne faut donc pas montrer d'emblée trop d'indignation devant tant de marques de reconnaissance ou même de vénération par la cité d'Athènes, donnée par la cité d'Athènes sur proposition justement de Stratoclès. Au surplus, on a relevé qu'avant 304, il n'y eut rien de particulièrement choquant dans les mesures adoptées à l'égard des sauveurs, des sauteres. Pas de divinisation à proprement parler, seulement des honneurs cultuels qui assimilaient ces êtres d'une exceptionnelle puissance à des demi-dieux, à des héros au sens grec du terme, puisque même la très originale et audacieuse création des deux tribus supplémentaires, l'Antigonis et la Démétrias, doit être à coup sûr rangée dans cette catégorie d'honneurs héroïques. Il est vrai qu'à partir de 304, avec une pression, une présence royale plus constante, la nature même des honneurs aura tendance à se modifier, sans parler de l'accroissement aussi du nombre des personnes honorées dans le sillage des rois. Mais avant de porter un jugement sur les éventuels débordements de Stratoclès, et outre Colakès et autres courtisans de Démétrios Poliorcète, il importe de noter une chose, c'est la permanence du danger que, même après ce nouveau tournant, Cassandre fait peser sur la cité. Certes, désormais, on se battra hors des frontières de l'Attique, surtout dans le Péloponnèse, l'Argolide, la Corinthie, à partir de 303. Les Athéniens n'en restent pas moins impliqués dans cette guerre. Et ils en paient, bon gré mal gré, le tribut en argent et en hommes. Lors de la précédente séance de séminaire, on a pu examiner une inscription bien remarquable à cet égard, connu depuis 1948 et surtout, à vrai dire, 49, car pour comprendre correctement la portée, d'abord le mot à mot de ce texte, il fallut attendre que le maître Louis Robert fit une critique radicale de la première édition, procurée pourtant par le très expérimenté Ferguson, l'auteur de Hellenistic Athens, son dernier travail. Un fragment raccordé en 1980 par Woodhead a confirmé, fragment B ici, a confirmé l'essentiel des restitutions de Robert. Il en va de même d'un tout petit morceau qui vient d'être publié et que m'a aimablement signalé M. Graham Oliver, que l'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure au séminaire, qui lui aussi, dans ce secteur, mais le texte présenté ici est encore l'ancien texte, si l'on peut dire, lui aussi confirme très largement l'esprit, en tout cas, des restitutions, mais confirme par ailleurs un changement apporté, que j'avais signalé, apporté par Habicht, non plus tois ellesi passin, mais tois basileusi, ce sont les rois qui sont là mentionnés. L'ensemble est un décret qui fait voir combien pouvait être exaltante, mais en même temps grosse de soucis, la participation athénienne aux campagnes de Démétrios, en l'occurrence contre Pleistarchos. On voit que le nom subsiste vers le haut du décret, c'est très important. Pleistarchos, ce frère de Cassandre, qui devait plus tard poursuivre sa carrière en Asie mineure, où une cité grecque, Héraclée du Latmos, porta quelque temps son nom, une Pleistarcheia, qui est attestée. Mais en 303, Pleistarchos fut pour les Grecs rangé sous la bannière du roi Démétrios, en Argolide et peut-être ailleurs, un adversaire des plus redoutables, au point que, comme l'atteste une remarquable dédicace trouvée autrefois à Argos, les Argiens attribuèrent au dieu Apollon lui-même, fils de Leto ou de Lato, l'expulsion de Pleistarchos hors de l'enceinte de leur ville. Quant aux Athéniens, ils livrèrent contre ce chef de Macédonien un victorieux combat de cavalerie, là ou ailleurs, dont on a, pardon, ça c'est le petit fragment nouveau, encore non inséré, le texte de Pausanias, dans ses Attica 1.15, Pausanias qui, donc, un demi-millénaire après les événements, put voir encore, en bordure nord de l'Agora, un trophée commémorant la victoire de la cavalerie athénienne sur Pleistarchos. D'après Pausanias, donc le monument se trouvait près de ce portique nord de l'Agora, la Stoa Poikile, le Pessile, exactement ici, et des fouilles assez récentes ont permis de retrouver les bases du monument, de cette porte en réalité, couronnée, c'est une restitution bien entendu qui a sa part d'audace, mais qui peut correspondre en gros à ce qu'était ce trophée des cavaliers athéniens en commémoration d'une victoire sur ce Pleistarchos. Par ailleurs, d'un décret contemporain en l'honneur du Thessalien Oxuthémis de Larissa. Cet Oxuthémis qui est par ailleurs vitupéré dans la tradition littéraire hostile à Démétrios, comme l'un des flatteurs justement les plus éhontés, mais qui avait une grande importance politique, il semble qu'on puisse tirer la conclusion, vous avez la fin du décret sous les yeux, que ce très haut personnage, commandant en chef de la cavalerie royale, avait un rôle à jouer pour user de son autorité en faveur des cavaliers, upertonipeon ton aik maloton, des cavaliers qui avaient été faits prisonniers dans une guerre toute récente, et donc probablement en 303 ou 302. C'est dire que les combats, très souvent, ces combats qui, dans la langue hellénistique, sont très souvent désignés par le mot kindunos, danger, n'avaient pas été, en l'occurrence, sans péril ni sans perte. De fait, dans l'inscription étudiée il y a une semaine, je redonne, constate que les nouvelles, certes, les nouvelles parvenues du front étaient plutôt encourageantes, la guerre ayant probablement pris un tour favorable en ce printemps 303, mais on constate aussi que le corps expéditionnaire athénien n'était pas encore de retour à la maison. Alors, on institue et on le fait sans tarder, un sacrifice propitiatoire à Athéna Niké, à la victoire, et aussi à Agatha Tuké, à la bonne fortune, pour célébrer, comme il convient, l'annonce de ces bonnes choses, car le mot qu'il faut restituer très certainement ici, à la fin de cette ligne 23, c'est agathon et non pas agonon, agones, comme l'éditeur ici de l'édition américaine de 97 s'obstinait ou s'était obstiné à maintenir. Mais la crainte de ne point voir rentrer sains et saufs tous les soldats athéniens, alors en campagne, les stratoiomenoi, à la ligne 12, les strata plus haut, Sotzomenoi à Pantech, cette crainte est bien sensible à qui lit attentivement le décret. Mais tout cela est exprimé avec beaucoup de retenue, car la manifestation d'une angoisse excessive aurait pu porter ombrage à la majesté d'un roi des plus susceptibles. Tout cela porte la marque d'un auteur très, très doué, de sorte qu'on pourrait être enclin à reconnaître dans ses dispositions la marque même de l'astucieux Stratoclès. En tout cas, pareille hypothèse, naguère encore exclue du fait que ce décret passait pour émaner de l'une des 12 tribus, à savoir l'Acamantis, qui apparaît en plusieurs endroits à la fin, et que tribu que seul le hasard du calendrier attique avait propulsé au premier rang dans la célébration de la cérémonie. Donc, cette hypothèse en faveur de Stratoclès est devenue parfaitement admissible maintenant que l'on sait qu'il s'agit en réalité d'un décret qui émane du peuple athénien tout entier, d'un psephisma, tout démou, tout athénaïo. Donc, attribuable, avec une certaine probabilité, à l'orateur Stratoclès. Ce qui paraît sûr, c'est que ce personnage était un homme intelligent et cultivé. Il avait même dû faire des recherches assez poussées en matière d'histoire. Car Cicéron, et vous avez le texte dans votre dossier, dans un de ses traités de rhétorique, le Brutus, fait mention d'un auteur nommé Stratoclès, en même temps que de Clitarque, historien connu d'Alexandre le Grand. Et cela à propos des versions contradictoires qui existaient sur la mort en exil du célèbre Thémistocle d'Athènes, donc un siècle et demi plus tôt. Or, ce Stratoclès avait choisi, dit Cicéron, la version du suicide, qui était non seulement la plus honorable pour la réputation du vainqueur de Salamine, mais la plus dramatique. Celle qui, comme le dit fort bien Atticus, l'interlocuteur dans le dialogue de Cicéron de notre auteur, fournissait à ses historiens le moyen de faire de sa mort un récit aussi rhétorique que pathétique. Vous avez en 43, « Anc mortem rhétorique et pathétique ornare potuerunt ». Il n'y a donc aucune difficulté à identifier l'historien Stratoclès à l'orateur et homme politique du même nom. On constate du reste que Cicéron, dans le même traité, connaît un autre Athénien qui s'illustra à la fois comme rhéteur et comme historien, c'est Démocarès, dont on verra qu'il fut le principal adversaire, justement, des courtisans de Démétrios et donc de Stratoclès. Aussi, un chercheur italien, M. Federico Maria Muccoli, s'est-il demandé dans un article tout récemment paru des Studi Hellenistici, de 2008, si Stratoclès ne serait pas pour quelque chose dans la production du fameux décret de Thémistocle, dont la trouvaille à Trézène en Argolide, voici exactement 50 ans, a été évoquée lors de notre première leçon. On se souvient peut-être que ce décret, vous avez ici une image, censé avoir été pris avant Salamine en 480, est en réalité une composition du IVe siècle, avant, rédigé à des fins de propagande pour galvaniser contre tout monarque barbare la résistance des Grecs en général et des Athéniens en particulier. Macchioli a fait valoir des arguments intéressants pour essayer d'établir que l'activité de Stratoclès après 304, son soutien inconditionnel à la politique d'union des Grecs contre la Macédoine et le roi Cassandre, une politique donc défendue par Démétrios, et ce roi Cassandre pouvait être considéré comme un barbare au sens ethnique du terme. Donc tout cela pouvait rendre compte de la genèse du document au début de l'époque hellénistique. Sans parler du fait que la ville même de Trézène, expressément mentionnée dans le décret de Thémistocle, comme lieu de refuge, fut à coup sûr impliquée dans la campagne que nous évoquions tout à l'heure, la campagne péloponnésienne de l'année 303. L'hypothèse ne laisse donc pas d'être séduisante, tout en comportant aussi des difficultés qui n'ont pas échappé à son auteur. L'une est que le noyau du prétendu décret de Thémistocle avait été forgé sensiblement plus tôt, vers 350 déjà. D'autre part, de l'avis général, sur la base de l'écriture, sur la base de cette stèle ou de sa photographie, la stèle même de Trézène, donc la gravure, ne paraît pas pouvoir remonter beaucoup plus beaucoup plus haut que le milieu du IIIe siècle ou la fin du IIIe siècle. Il faudrait donc nécessairement, si l'on voulait retenir l'hypothèse astucieuse du savant italien, il faudrait nécessairement admettre que ce texte a connu plusieurs versions, étant plus ou moins remanié à chaque fois que l'on jugeait bon de s'en servir, ainsi presque certainement lors de la guerre lamiaque ou hellénique en 323, puis de nouveau peut-être à l'époque de Stratoclès, justement, quand Démétrios prétendit remettre sur pied en 302 une ligue des cités grecques pour la défense de la liberté et de la démocratie, et une dernière fois sans doute en 268, à la veille de la guerre dite de Crémonides, contre le roi Antigone Gonatas, fils du Polyorcète, précisément. Dès lors, le piquant de l'histoire serait que Stratoclès, agent des Antigonides, eût contribué à l'adaptation, ou du moins à la diffusion, d'un texte qui, en fin de compte, aurait été utilisé contre les rois Antigonides eux-mêmes, prétendus garants des libertés helléniques. Et cela peut-être assez tôt, sinon dès 301, du moins en 287, car, comme on le verra encore à loisir, les Athéniens ne tardèrent pas à se lasser de la pesante sollicitude de ces monarques. Et 20 ans après l'euphorique année 307, c'est avec le même enthousiasme qu'ils se débarrassèrent de la tutelle de Démétrios. Plus question alors de le regarder comme un sauveur. Mais revenons aux années 307-301. En dépit de son rôle de ténor incontestablement pendant toute cette période, Stratoclès n'est pas, tant s'en faut, la seule figure que nos sources permettent de tirer de l'oubli, qu'il s'agisse pour lui de partisans ou, tout au contraire, d'adversaires irréductibles. Certes, jusqu'en 304, une relative union sacrée, peut-on dire, paraît avoir existé au sein de la classe politique athénienne. Cette que la cité, il ne faut jamais l'oublier, est alors comme en état de siège, en tout cas sous la constante menace de Cassandre. Pourtant, un conflit interne, assez célèbre, fort intéressant en tout cas sur le plan de l'histoire culturelle, survint dès le lendemain de la libération de 307. Il résultait d'une proposition de loi dirigée contre l'enseignement des philosophes, ou plus exactement, d'après Diogène Laërce, dans sa vie de Théophraste, livre 5, 37, vous avez le texte dans le dossier, d'une loi au terme de laquelle aucun des philosophes ne dirigerait d'école sans l'assentiment du conseil et du peuple. Medena ton philosophon, scholes aphegeistai, an me te boulei kaitodemoi doxei. Donc, d'une mise sous contrôle de l'activité des scolarques, des chefs d'école, et non pas nécessairement d'une expulsion générale de tous ceux qui pratiquaient d'une manière ou d'une autre la philosophie à Athènes. Cette mesure est entrée dans l'histoire sous l'appellation de loi de Sophoclès, du nom de son promoteur, un citoyen du dème de Sounion, qui apparemment n'était pas une figure de tout premier plan, mais seulement peut-être le président du collège des nomothètes, des législateurs. Derrière lui se profilaient d'autres hommes politiques, y compris un adversaire, ou en tout cas futur adversaire de Stratoclès, mais aussi, selon toute apparence, des partisans du roi Démétrios, puisque dans une comédie représentée très probablement en 306, lors des Dionysies, le poète Alexis, qui était un des principaux représentants de l'art dramatique en cette fin du IVe siècle à Athènes, se félicitait de ce que les dieux avaient permis à Démétrios et aux nomothètes de chasser hors de l'Attique les émules de ces philosophes de l'Académie, qui mentionnés en près, tout esti academia, et qui prétendaient enseigner l'art du discours aux jeunes gens, tois neois, et on fait le vœu qu'on les jette tous au corbeau, es coracas et reine, ce qui semble bien signifier qu'on les assimilait en quelque sorte aux fauteurs de crimes contre l'État, qui se voyaient effectivement refuser l'inhumation en terre attique. Bon, c'est une interprétation peut-être maximale de cette mesure. Mais quel grief avait-on alors contre ces philosophes? Il ne semble pas que l'accusation ait été de nature proprement religieuse, comme cela avait été le cas, on le sait bien, dans le procès de Socrate. Certes, d'autres penseurs après lui furent traînés en justice pour azébéia, pour impiété. Mais d'abord, peut-être précisément, le successeur d'Aristote, Théophraste, originaire de la ville d'Érésos, donc dans l'île de Lesbos, peu importe. ce Théophraste, parce qu'il aurait déclaré que la tuquée, la fortune, mène le monde. Ce qui pouvait être interprété comme blasphématoire à l'écart des dieux tout-puissants, encore que la tuquée, on vient de le voir il y a un instant, fut considérée elle-même et très officiellement comme une divinité. Mais ce mauvais procès, qui lui avait été intenté par un certain Agnonides, dit Diogène Laërce, en qui il faut en réalité reconnaître le démagogue, le meneur Agnonides, avec aspiration, accusateur de faution lors de l'intermède démocratique de 319-318, ce procès était déjà une vieille affaire, qui a cependant l'intérêt de montrer, de manière tout à fait éloquente, que l'hostilité des démocrates à l'égard des disciples du très macédonophile Aristote avait des racines anciennes. En 307, les griefs devaient être plus ouvertement politiques. On reprochait au même Théophraste, comme à ses élèves, n'oublions pas qu'il était du nombre Démétrios de Phalère lui-même, d'avoir soutenu le régime tyrannique qui venait d'être renversé. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur des caractères, notamment, ne demanda pas son reste. Il quitta Athènes d'autant plus promptement qu'il n'avait pas la citoyenneté athénienne. Et, à en croire Diogène, Diogène Laërce, tous les autres philosophes, Pantes oiloipoi philosophoi, firent de même. Mais nos sources ne nous permettent guère, il faut bien le reconnaître, de dire qui ils étaient exactement. Et cela pour diverses raisons. D'abord, parce que cet exil dut être, pour la plupart d'entre eux, fort courte durée, aussi court que dans le cas de Théophraste lui-même. Ensuite, parce que des personnages en vue prirent spontanément le chemin de l'exil en 307, comme l'orateur Dinarque, très proche de Théophraste et de ses élèves, sans être pour autant lui-même un philosophe. Enfin, surtout parce que les écoles philosophiques implantées à Athènes sont encore très peu nombreuses à cette date. En fait, il n'y a guère que deux qui soient organisées, celle d'Aristote précisément, le Péripatos, comme on l'appelait, au lycée, et puis alors la doyenne de ces écoles, l'Académie, placée au-delà du céramique, qui avait été fondée par Platon vers 380. Or, cette école-ci était dirigée depuis 314, donc quelques années avant la loi, par un Athénien, Polémon, d'Udème d'Oion, qui, après, disons, une jeunesse un peu tapageuse et quelques frasques amoureuses sur lesquelles Diogène Laërce s'étend avec quelques complaisances, semble avoir été un citoyen plutôt tranquille. On s'étonnerait donc d'apprendre que cet Athénien de bonne souche, très riche, ait été inquiété dans ses activités de chef d'école. Son biographe le plus ancien, Antigone de Caristos, qui est cité par Diogène Laërce, c'est l'autre texte, livre 4, 17, rapportait du reste que Polémon, je cite, « lorsque survint un jour de l'agitation dans la ville, et après s'être informé de ce qui se passait, resta impassible, atrepton meinan fasi. » Telle pourrait donc avoir été son attitude en 307, face à l'agitation autour de la loi proposée par Sophoclès. Mais il est vrai que l'Académie de Platon n'avait pas très bonne presse auprès des démocrates. En 307 encore, ceux-ci pouvaient reprocher au fondateur sa complaisance à l'égard des régimes autoritaires installés autrefois par un certain nombre de ses disciples dans leurs cités respectives. Mais cela commençait tout de même à dater un peu. Et le prédécesseur immédiat de Polémon, l'actuel scolarque, Xénocrate de Chalcédoine, avait joui de l'estime des Athéniens, tout étranger qu'il fût. À plusieurs reprises, en effet, il avait mis son autorité, son talent oratoire au service de sa cité d'adoption en participant à de très délicates négociations, ainsi en 322, auprès d'Antipatros, aux côtés, certes, de Phocion et de Démade. On notera cependant que, de son vivant, il est notamment visé chez le poète Alexis, que l'on citait tout à l'heure, tout au Xénocrates, tout de même remarquable, et qu'ensuite, après sa mort, on l'attaqua sans ménagement dans le débat autour de la loi. Un autre académicos, si l'on peut dire, contemporain exact de Xénocrate, et d'ailleurs son rival pour la direction de l'Académie en 339, à la mort de Speusippe, Speusippe qui était le successeur direct de Platon, Ménédémos de Pyra, autre cité de Lesbos, petite ville proche d'Érésos, patrie de Théophraste. Ce Ménédémos de Pyra passait, lui, pour avoir refusé d'accompagner Alexandre en Asie, ce qui pouvait être regardé, après 323, comme un titre de gloire. Dans un article à l'impression, je montre que ce disciple direct de Platon ne fait qu'un, de toute évidence, bien que cela ait échappé aux critiques, avec Ménédémos Eunikou Puraios, qui est honoré de la proxénie dans la cité de Delphes en l'an 325, et qui dut mourir quelques années plus tard. Bref, les académiciens passaient pour des gens, dans l'ensemble, des gens sincèrement attachés à la démocratie, et il est donc permis de douter que Polémon, encore une fois, ait été obligé, lui, de prendre le chemin de l'exil, comme dut le faire son collègue Théophraste dans l'autre école. Est-ce à dire que l'on puisse identifier actuellement, en dehors de Théophraste lui-même, et peut-être de son élève et futur successeur, Straton de Lampsaque, aucune autre victime temporaire ou durable de la loi proposée par Sophoclès. J'ai fait naguère une suggestion à cet égard. Un autre Ménédème, sensiblement plus jeune que le citoyen de Pyra, pourrait bien, lui, avoir été directement touché par la loi de 307-6. Il s'agit du relativement célèbre Ménédème d'Érétrie, à qui Diogène Laërce a consacré le dernier chapitre du livre 2 de ses philosophes illustres. Ce biographe, certes, ne parle pas d'un séjour à Athènes, sinon de manière confuse, en croyant que le philosophe érétrien fut élève de Platon, ce qui est une erreur chronologique évidente et d'ailleurs reconnue de longue date. Mais on lit chez le sophiste athénée, au livre 4, 168, et qui puisait, en l'occurrence, son information à de très bonnes sources historiographiques, une anecdote souvent commentée sur le plan des institutions d'Athènes. En effet, durant leur séjour dans cette ville, Ménédème et son inséparable ami Asclépiadès de Phlionte, dans le Péloponnèse, furent poursuivis par le tribunal de l'Aréopage pour délit d'oisiveté, graphé argias, car ils passaient toute leur journée à écouter les maîtres athéniens sans avoir de ressources propres. Mais on s'aperçut qu'en réalité, ces jeunes philosophes travaillaient la nuit chez un meunier, ce qui leur valut une récompense, on ose dire une bourse d'études, de la part des aéropagites. Or, on a très communément daté cet épisode des alentours de 330-320. Ainsi, la traductrice, ici, Madame de Bruy, dans une thèse de 1995 sur les compétences de l'aréopage, plus récemment encore, Madame Clara O'Sullivan, dans son livre tout récemment paru sur Démétrius de Phalère. Mais cette chronologie repose sur des fondements ruineux. En réalité, ce n'est pas avant 322 que Ménédème entama sa formation auprès du philosophe Stilpon de Mégare, figure importante, et avant de s'installer un temps à Athènes avec Asclépiadès, il fit en sa compagnie bien d'autres séjours à l'étranger, y compris à Chypre avant 311. Donc tout invite à penser que les deux amis ne s'installèrent pas dans leur lieu de séjour définitif, c'est-à-dire Érétrie, avant la dernière décennie du IVe siècle. Dès lors, c'est vers 310-307 seulement qu'on placera l'anecdote rapportée par Athénée, ce qui correspond à une époque où, justement, sous Démétrios de Phalère, l'activité philosophique était tout à fait à l'honneur à Athènes. Athènes dirigée par un philosophe. Il paraît ainsi tout à fait possible, et j'ose dire probable, et divers historiens de la philosophie, ou des philosophes, disons mieux, comme Tiziano Dorandi et Matthias Hacker récemment, m'ont emboîté le pas. pour supposer donc que c'est précisément en raison de la loi de Sophoclès que Ménédème flanquait toujours du dit Asclépiadès, quitta Athènes pour revenir dans sa patrie, cité dans laquelle, ou d'ailleurs, il fut tout d'abord assez mal accueilli, comme si la loi athénienne avait jeté partout en Grèce un certain discrédit sur l'activité philosophique. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne remirent plus jamais les pieds à Athènes, alors que la plupart des philosophes touchés par la loi, et Théophraste tout le premier, revinrent sitôt qu'ils le purent. C'est du reste en 307-6 que, de retour d'Asie mineure, l'Athénien de Samos, Épicouros, notre Épicure, devait y installer en toute discrétion dans l'enclos d'une propriété privée, et non dans un gymnase, l'école appelée à être connue sous le nom de jardin, képos, sans se soucier le moins du monde de la loi de Sophoclès, parce que son arrivée au printemps 306 dut coïncider à peu près avec l'abrogation de cette loi. On sait en effet qu'à peine promulgué, ce nomos fut soumis à une action en illégalité, gravée par un homone, que lança un certain Philon, sans doute le Philon du dème d'Alopéque, qui était proche justement de Théophraste. Et selon une opinion qui eut cours pendant très longtemps, Philon aurait fait valoir contre la loi que les écoles philosophiques, ayant tout un caractère religieux, pensait-on, devaient bénéficier de la même liberté d'établissement que les thiases, orgéons et autres très nombreuses associations cultuelles de ce type. Mais cette idée repose en fait sur une théorie arbitraire du philologue allemand von Wilamowitz, théorie qui a été complètement réfutée depuis assez longtemps, dès 1972, par John Patrick Lynch, Aristoteles School. En réalité, c'est en vertu d'une vieille loi de Solon sur la liberté d'association, en général, que les philosophes avaient le droit fondamental de constituer une école et donc d'y enseigner leur doctrine, pour autant que l'ordre public ne fût pas troublé. Mais si la nouvelle loi put être attaquée par des citoyens, disons, libéraux, elle fut défendue avec acharnement, avec passion, par certains démocrates tout à fait hostiles à l'influence politique exercée dans un passé encore tout récent par cette école aristotélicienne. Évidemment suspecte, et non pas sans raison, d'entretenir des liens étroits avec le pouvoir macédonien. On a conservé, je ne le cite pas, mais on l'a conservé, un extrait du discours que prononça dans cette circonstance le plus actif d'entre eux, Démocharès du dème de Leuconoé. Il s'en prend avec la dernière vigueur à Aristote lui-même, preuve, si besoin était, que les péripatéticiens étaient bien l'école philosophique visée au premier chef par la loi de Stratoclès. Par la loi de Sophoclès, ne confondons pas. Démocharès apparaît de fait, cet adversaire de Stratoclès, comme l'une des figures les plus marquantes de l'époque. L'égal, on peut dire, de Stratoclès. Tous deux ont du reste en commun d'être, assurément, d'ardents démocrates. Mais la ressemblance s'arrête là, car si ce dernier, donc Stratoclès, par opportunisme, plus peut-être que par conviction, considère que les Antigonides sont les plus sûrs garants de la liberté retrouvée, Démocharès, en revanche, voit en eux une menace mortelle pour le régime démocratique, et surtout depuis le moment où le roi Démétrios décide de faire d'Athènes sa principale résidence, c'est-à-dire à partir de son retour triomphal de 304. Leur opposition offre d'ailleurs un caractère personnel et sans doute viscéral. Stratoclès n'a-t-il pas, dans son jeune âge, intenté un procès au vieux Démosthène, en 323. Or, Démocharès est par sa mère le propre neveu du grand orateur défunt, et qui reste pour lui la référence politique majeure, et c'est d'ailleurs lui qui, en 280, sera l'auteur de la proposition, suivie des faits, visant à réhabiliter la figure de Démosthène par l'octroi des plus grands honneurs, et notamment par celle d'une statue sur l'Agora, statue dont on a la chance d'avoir une copie, parce qu'elle était de bronze, l'original, une copie fidèle du grand orateur. Ce qui diffère aussi entre Démocharès et Stratoclès, il faut nécessairement en tenir compte, c'est la nature même des sources auxquelles on les connaît l'un et l'autre. Dans le cas de Démocharès, en effet, la documentation proprement épigraphique est très pauvre. Dans un compte des trésoriers d'Athéna, je montre d'abord l'ensemble, un document extrêmement complexe, je passe immédiatement à un extrait de cette inscription. Il est fait la mention d'un décret proposé par Démocharès, justement. On lit catatopsephisma demou o egrapse Démocharès l'œiconeus. C'est un acte administratif faisant état d'un transfert de fonds par les soins d'une commission d'aréopagite. Ce qui atteste, on peut le noter au passage, que ce vénérable aréopage survécut au rétablissement de la démocratie en 307. Car ce décret date très précisément de l'année 305, de l'été 305, au début de l'archontat de Xénipos, quand la première prytanie de l'année civile était exercée par la tribu Antigonis, donc une des nouvelles tribus. Coïncidence remarquable pour qui sait combien Démocharès fut critique, au moins par la suite, sur le chapitre des honneurs décernés aux Antigonides. Mais peut-être qu'il avait accepté de bon cœur, en 307, cette réforme des tribus, survenue au lendemain même de la libération. Ce compte des trésoriers mérite d'ailleurs l'intérêt de l'historien à un autre titre encore. On peut en effet y constater, sur l'autre face, je ne la montre pas, que les pesantes couronnes d'or votées pour les deux rois en 304-3 ne furent jamais consacrées à Athéna par les bénéficiaires, contrairement à une tradition qui ne souffrait guère d'exception. Antigone et Démétrios les conservèrent sans scrupule pour leur usage personnel ou, disons, pour financer la guerre contre Cassandre. Voilà qui dut susciter la plus vive réprobation de ce démocrate d'ancienne école qu'était Démocharès, d'autant plus que les sauveurs d'hier allaient faire main basse sur d'autres pièces du trésor d'Athéna. Tant et si bien qu'à partir de cette date, on paraît avoir renoncé à faire graver sur pierre les comptes et inventaires des biens de la déesse. Mais ce qui devait provoquer un conflit ouvert entre les deux hommes, ce sont les honneurs que Stratoclès fit décerner sans mesure à partir de 304 aux rois et à leurs philoïs. Il n'est sans doute pas fortuit que l'on ait conservé aucun décret honorifique ayant Démocharès pour auteur, tandis que Stratoclès, lui, distribuait les récompenses à tour de bras en ne faisant au surplus qu'exécuter les ordres ou les caprices du roi Démétrios. C'est le souverain en personne qui désigne désormais à l'attention du conseil et du peuple d'Athènes les personnes à honorer. Et il le fait par le moyen de lettres adressées aux autorités, en fournissant sans doute à chaque fois les noms d'un nombre assez élevé d'officiers à honorer. D'où l'existence de plusieurs décrets votés lors de la même assemblée sur proposition du même Stratoclès. Par exemple, on connaissait deux décrets datant de l'extrême fin de l'archontat de Phéréclès, soit de l'été 303, qui étaient votés pour des philoïs de Démétrios. Quand, il y a une vingtaine d'années, l'épigraphiste grec Koumanoudis en a publié un troisième, que vous avez sous les yeux, ayant exactement le même préambule, avec mention d'une lettre, justement, là, encadré, où le roi faisait valoir les mérites d'un citoyen de Cyrène, Sotimos, au prétexte que cet officier avait marqué du dévouement pour les affaires de son père et de lui-même, eistaton basileon, basileon pragmata, accessoirement pour la liberté d'Athènes, kai eis tou demouton athénaion eleuterian. C'est ainsi que le Cyrénéen en question, et ses émules d'ailleurs, devenaient des combattants pour la démocratie. Synagonistes hypertes démocratias. Et dès lors, très digne d'être honoré aux yeux de Stratoclès et de ses amis. Aussi longtemps que la guerre contre Cassandre fut pressante, l'Assemblée se résigna sans doute à suivre sans murmurer pareille recommandation venue d'en haut. Mais la servilité des orateurs à gage dut bientôt indisposer quelques démocrates, surtout lorsqu'il s'agissait d'octroyer des honneurs plus inhabituels, voire extravagants et coûteux, et pour Démétrios lui-même. C'est là que Démocarès de Leuconoé, au témoignage des sources littéraires cette fois, ne devait pas tarder à s'en prendre violemment à Stratoclès. Au chapitre 10 de la vie de Démétrios, chapitre 10 et suivant d'ailleurs, Plutarque a donné un riche aperçu des honneurs divins accordés à ce roi. Cela très certainement, pour ce qui est des honneurs divins, après 304 seulement. Même si le biographe, on l'avait dit, a eu tendance, disons, à quelques occasions, a pu attribuer à tort certains honneurs au premier séjour du roi à Athènes. Ainsi, c'est probablement à tort qu'il a placé tout au début des 307 l'octroi du titre de Théos Kataibates, donné à Démétrios, de Dieu tombé du ciel, en quelque sorte, comme la foudre, épiclèse réservée jusque-là à Zeus, voire à Hermès, et qu'on a mis une guerre avant 304. Au nombre des indignes flatteries sorties de l'imagination de Stratoclès, selon Plutarque, il y eut notamment cette décision d'appeler Théoroi, les ambassadeurs sacrés, et non plus simplement presbyteroi, les Athéniens envoyés auprès des Antigonides, puisque ces derniers étaient désormais à traiter comme des divinités à part entière. Plus concrètement encore, on fit des Dionysies une fête commune à Dionysos et à Démétrios, Dionysia kai Démétriea, association du reste facilitée par le fait que Déméter, la grande divinité, était de toutes les déesses du Panthéon la plus intimement liée au dieu du vin et du théâtre. Ce n'est donc pas une substitution pure et simple des Démétriea aux Dionysiens, comme on pourrait le croire en lisant Plutarque. Il y eut d'ailleurs une tentative, mais sans lendemain, pour donner le nom de Démétrion, ce nom qui existe ailleurs qu'à Athènes, en rapport avec Déméter, au mois attique Munichion. Mais l'épigraphie n'a pas confirmé cette innovation, restée peut-être seulement à l'état de projet. En outre, dès l'hiver 304-303, apparemment toujours à l'initiative de Stratoclès, on autorisa le roi à séjourner dans l'opistodome, ou partie arrière, opistodome au sens large, parce que l'opistodome, strictement, stricto sensu, c'est seulement ce portique arrière. Cette pièce, en fait, aux quatre colonnes, qui était le Parthénon proprement dit, la salle des Vierges, sans communication directe avec la grande nef où se trouvait la statue chryséléphantine due à Phidias. Démétrios s'empressant d'y loger avec les plus effrontées de ses maîtresses, ce qui était une curieuse façon de comprendre le nom réservé jusque-là à cette partie du temple. Mais le comble fut peut-être atteint quand, au printemps 302, pour répondre au souhait, ou plutôt à la volonté de Démétrios, d'être initié au mystère d'Éleusis, on décida de modifier le calendrier afin de permettre au roi de ne pas avoir faire comme tout le monde, attendre les diverses étapes, jusqu'à l'automne au moins, pour accéder au degré suprême de l'initiation, comme on était alors au printemps, mois d'avril, mois Munichion. On décida de changer temporairement son nom en Antesterion, correspondant à peu près à mars, époque de la première phase de l'initiation. Et une fois la cérémonie accomplie, on rebaptisa en toute hâte le même mois sous le nom de Boedromion, correspondant à septembre, donnant ainsi au roi la possibilité d'accès par voie rapide, très rapide, au stade de l'épopthéia, ou la contemplation lors des grands mystères d'Éleusis. De telles manipulations, d'autres mesures aussi arbitraires, discréditaient totalement la démocratie athénienne. Aussi eut-il tout de même un sursaut. Des citoyens, dit Plutarque, chapitre 24, vous l'avez, je crois, dans votre dossier, furent condamnés à l'exil pour avoir osé proposer un décret mettant fin au bon plaisir, sans limite, d'un roi de plus en plus mégalomane. Mais l'affaire qui fit le plus de bruit, c'est la condamnation de Démocarès à l'exil. Parce que selon Plutarque, toujours source essentielle dans laquelle il s'agit de mettre un peu d'ordre parfois ou de corriger sur quelques points, selon donc Plutarque, Démocarès aurait brocardé Stratoclès lui-même en l'accusant de vénalité, ce que faisait aussi, à sa manière, le poète comique Philippides de Céphalée, dans des vers où il tournait en ridicule les innovations cultuelles du moment, en se moquant de tout cela. Mais d'autres poètes, il est vrai, avaient pu prendre le parti adverse, ainsi Archédicos, un rescapé de l'oligarchie, qui, on s'en souvient peut-être, en 319-8, avait eu la charge importante d'anagrafeuse à l'ombre du régent Antipatros. Cet Archédicos, sans doute un peu précédemment, avait tenu des propos d'une grande vivacité à l'encontre de Démocarès. Mêlé d'attaques si injurieuses que, plus d'un siècle encore après ces événements, le grand historien Polybe s'indignait longuement de ce que son propre devancier à lui, l'historien Timée de Tauromenion, ait pu, dans une histoire universelle, leur donner, par malveillance, dit Polybe, un écho disproportionné. Mais l'affaire de l'exil de Démocarès est présentée, bien sûr, sous un jour tout différent, dans la proposition que son fils Laques présenta en 271, en vue de lui faire conférer, à titre posthume, les plus grands honneurs. Ce projet, vous l'avez dans votre dossier, c'est tiré de la vie des dix orateurs attiques. D'après ce projet de décret, donc, c'est en raison de son activité durant la guerre de 4 ans, et notamment à cause de l'alliance conclue avec les Béotiens, que Démocarès fut exilé par ceux qui renversaient la démocratie. Exepesen upoton catalusanton ton démon. Cette version des faits a pu sembler difficilement compatible avec celle de Plutarque, au point que d'excellents historiens, à commencer par De Sanctis, dans un mémoire fondateur de 1893, ont pu défendre l'idée que le véritable exil de Démocarès, qui prit fin en 286, n'avait dû survenir que vers 292, donc être beaucoup plus réduit. Une expression, en effet, paraissait aller dans ce sens, puisque les auteurs, je viens de le dire, de cette condamnation, sont caractérisés dans le décret comme les dissoluteurs du peuple, oi catalusantes tu ton démon. Cette catalusis étant normalement, dans le vocabulaire politique, le fait d'aspirant à l'oligarchie, voire à la tyrannie. Mais, pour lever la difficulté, il suffit d'observer, comme l'ont fait certains, que c'est bel et bien, de dissolution de la démocratie que Stratoclès et ses acolytes étaient accusés. En effet, on a conservé, grâce à Plutarque, un mot du poète Philippides de Céphalée, partisan des démocrates, qui, dans une de ses comédies, eut un mot qui fit mouche, s'en prenant à Stratoclès, puisqu'il a dit « ce sont de telles pratiques, donc tout ce qu'il faisait pour, en fait, d'honneur divin, ce sont ces pratiques-là qui mettent le peuple en danger, qui le détruisent, et non pas la comédie. Tauta cataluei demon ou comodia, un mot remarquable qui caractérise bien l'esprit de l'époque. Donc, à l'examen, l'objection faite à la date haute pour l'exil de Démocarès n'est pas justifiée. C'est bien vers 303, et non pas seulement vers 292, qu'eurent lieu les négociations avec les Béotiens menées par cet homme politique à la veille de son exil, négociations rendues certainement très difficiles, et on le devine mieux maintenant par le fait que Démétrios, en 304, avait forcé les Béotiens à restituer Oropos aux Athéniens. De fait, sans même alléguer cet argument, un historien américain, Leonard Smith, a prouvé dès 1962, et de manière sans doute définitive, que l'exil de Démocarès dura bien et bien une quinzaine d'années, de 302 jusqu'au lendemain de la libération de 286. 287, donc seulement 286, donnant ainsi tout loisir à cet orateur, à Démocarès, de se muer en historien. Car on sait qu'il fut un historien. Quel trésor d'informations devait contenir son œuvre en plus de 22 livres que lisait encore Athénée à l'époque impériale, même si, à en croire Cicéron, la rhétorique y tenait une place excessive. Il est vrai que Démocarès était d'abord un orateur, un public, et cela au détriment de l'exposé des faits. C'est ce que dit Cicéron, Butus 286, « Nom non tam historico quam rhetorico genere ». Ajoutons enfin que Démocarès ne fut certainement pas le seul à devoir prendre le chemin de l'exil à ce moment-là. La chose est établie pour le poète comique, précisément Philippides, dont il a été question il y a un instant, cela est attesté non seulement par Plutarque, mais aussi et surtout par le très beau décret pris en son honneur vers la fin des années 80. On aura l'occasion d'y revenir. L'exil est seulement vraisemblable dans d'autres cas. Il me semble en vérité très probable dans celui d'un homme politique qui ne fut longtemps connu que par un seul document, mais en vérité peu banal. C'est Eucharès de Contulé, honoré en 303, parce qu'il s'était occupé avec soin de donner la plus grande publicité à toutes les lois élaborées durant l'année 304. On le voit ici dans les honneurs, cette phrase n'est certainement pas banale, puisqu'il a exposé, il a pris tous ses soins pour que soient exposées les lois. Une petite erreur dans la gravure, mais qui a été rétablie, et pour que chacun puisse voir ce travail législatif, en prendre connaissance. Cette année-là, leur nombre dut probablement être élevé, puisque Athènes traversait une période d'activité fébrile dans tous les domaines, et du fait aussi de la présence du roi Démétrios dans les murs. Œcarès avait-il disparu peu après, ou seulement plus tard, sous la tyrannie, sous l'oligarchie du début du IIIe siècle? On n'en savait rien, et à vrai dire, on ne se posait même pas la question. Or, une trouvaille épigraphique exceptionnelle a établi que, 30 ans après le décret en question, cet homme était non seulement toujours vivant, mais encore politiquement actif. Il se trouve en effet être l'auteur, en 270-69, d'un des plus longs et des plus intéressants décrets de toute l'histoire athénienne, le décret pour Callias de Sphétos, publié en 1978. On peut donc légitimement supposer que, comme Démocarès, comme Philippides précisément, ce démocrate passa en exil une longue partie de sa vie d'homme adulte, d'où le silence total sur son activité pendant toute une période. Et gageons qu'ils ne furent pas les seuls, en cette période extrêmement troublée, à subir un tel sort. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.